Vous écoutez
RMC.
Messieurs, pour lancer le débat sur le Paris Saint-Germain, sur cette défaite du Paris Saint-Germain, sur cette victoire du Lille Olympique Sporting Club, je vous propose, pour lancer la chose, tout simplement d'écouter Mauricio Pochettino. Il était en conférence de presse avec évidemment une conférence de presse sur laquelle, il s'est exprimé auprès au micro de Loïc Tanzi sur un Paris Saint-Germain aux deux visages.
Les circonstances, on les connaît. On n'arrive pas à trouver de régularité. Il y a plein de circonstances différentes et ce n'est pas une excuse, mais ça nous affecte avec des hauts et des bas.
Estamos trabajando en eso. Nos falta conseguir esa regularidad.
Voilà, un Paris Saint-Germain à deux visages. Et puis je voudrais vous proposer cet autre son de Mauricio Pochettino concernant le carton rouge de Neymar. On a tous parlé un petit peu de l'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain. Écoutez Mauricio Pochettino sur le carton rouge de Neymar.
Ce sont des circonstances qu'on vit. Il y a de la complexité dans notre réalité, des choses nouvelles qu'on doit maîtriser. Nous ne sommes pas contents, les joueurs non plus, mais il faut mesurer l'impact de ce qu'il se passe pour nos joueurs. On est déçus, c'est vrai, mais on aurait pu avoir quelque chose de plus. On a dominé, contrôlé le match.
Messieurs, sur ces déclarations de Pochettino et puis plus généralement sur cette rencontre, clairement le Paris Saint-Germain n'a pas mis les ingrédients, notamment sur le plan mental.
Les 20 premières minutes, si. Les 20 premières minutes, ouais, c'est trop peu parce que il a parlé d'irrégularité, il a parlé d'équipe à deux visages et c'est la vérité. Cette équipe du PSG n'est pas régulière tout au long d'un match et c'est ça qui est désolant pour avoir des joueurs aussi bons techniquement, aussi bons physiquement, aussi bons tactiquement aussi. Normalement, doit avoir la constance nécessaire pour battre cette équipe de Lille. Je suis désolé, on est à domicile, on est le Paris Saint-Germain. Normalement, l'état d'esprit doit être au maximum pour battre cette équipe. Et même ça, ils l'ont pas en vérité. Il y a pas de leader dans cette équipe. Il y a personne pour dire à qui que ce soit de se réveiller.
Paredes un peu.
Ouais.
Mais maladroitement.
Ouais.
Maladroitement, en étant un peu violent, notamment sur Jonathan Davis.
Voilà, je pense que déjà là, il devait prendre peut-être autre chose.
Prend jaune, il est averti.
Ouais, mais peut-être autre chose. C'est parce qu'au vu des images, il appuie bien quand même.
Pas faux.
Il appuie bien. Après, il y a des attitudes qui sont un peu bizarres. Alors, on va parler de Neymar, bien entendu, mais il y en a d'autres aussi, surtout offensivement. Je veux dire, Di Maria n'a pas été un flamboyant cet après-midi. Kylian, il a fait une sortie assez déroutante mercredi, mais ça l'a pas empêché d'être assez transparent ce soir.
Il a été mauvais.
Ouais, transparent, mauvais, tout ce qu'on...
Non, il a été mauvais parce c'est pas juste transparent, c'est qu'il est mauvais parce qu'il est agaçant dans ses choix et dans ses prises de décision qui sont très individualistes.
Ouais. Mais après,
T'as le droit d'être mauvais. Mais dans l'attitude, dans le comportement, il faut quand même mettre le minimum syndical requis.
Le minimum syndical, c'est l'état d'esprit, c'est se taper, c'est faire des courses, c'est aller vers l'avant, c'est se replacer défensivement.
Le problème, Fred, c'est que le Paris Saint-Germain, je veux bien entendre l'excuse, on a le match du Bayern en tête. Le championnat, après tout, même si Lille reprend la main, le championnat n'est pas joué. On verra. Le Paris Saint-Germain est une très belle équipe. Le Paris Saint-Germain a un bon entraîneur. Le Paris Saint-Germain a des très bons joueurs. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que sur le match de ce soir, on se disait OK. Enfin, de cet après-midi, on se disait OK. Il y a eu quand même cette victoire contre Lyon qui est probante. Enfin, le Paris Saint-Germain se remet à gagner contre les gros. Et là, patatras, tu retombes dans tes travers. Tu recommences à perdre contre des concurrents directs. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le match du LOSC, en fait, est assez simple. Ils ont été sérieux. Ils ont été disciplinés tactiquement et ils ont su mettre l'intensité qu'il fallait dans les duels. Le Paris Saint-Germain n'a pas eu affaire à une équipe qui a baissé le pantalon et qui a courbé les chines et qui leur a dit « Allez, prenez les 3 points comme c'est souvent le cas en Ligue 1 ». Et malheureusement, face à un peu d'adversité, on a vu que le PSG perd des pieds. Et pire que ça, que face à un peu d'adversité, le PSG disjonctait à l'image de l'attitude de Neymar. Que je ne blâme pas parce que toute l'équipe est à blâmer ce soir. C'est le collectif qui a blâmé. Et ce qui m'inquiète, c'est que cette équipe, en fait, c'est une équipe qui est une très belle équipe avec de très belles individualités. Mais le symptôme que nous avions diagnostiqué depuis plusieurs saisons, s'avère être toujours présent et prégnant. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne sait pas faire face à l'adversité. Et quand tu as en face une équipe du LOSC qui refuse de baisser le pantalon, qui te propose une opposition sérieuse et qui en plus a de la qualité, ça donne un match comme cet après-midi. Est-ce qu'il y a une surprise ? Personnellement, je ne suis pas surpris.
Messieurs, au-delà de ce dont on vient de parler là sur ce que vous avez vu, est-ce que cette équipe du Paris Saint-Germain n'est pas construite à l'envers quand on voit la faiblesse défensive, notamment sur les côtés? On a tous vu le naufrage de Kerrer.
Ils ont essayé, ils ont fait Florenzi. Florenzi, normalement, ça doit être lui le titulaire indiscutable.
D'accord. Sauf que avoir une bonne équipe, c'est avoir 11 joueurs et avoir 11 joueurs de qualité équivalente. Quand Lille sort un joueur, quand Lille est obligé de remplacer Thiago Diallo, ils font rentrer Bradaric, qui est un joueur de valeur équivalente.
C'est un peu dur ce que tu dis. Parce que certes, il y a eu une erreur sur Kerrer. Si c'était un club avec des moyens qui n'étaient pas illimités, on dirait que c'est un accident industriel, tant l'investissement consenti sur Kerrer est important. Après voilà, t'as pas Florenzi. Bernat est blessé depuis un moment. T'as quand même tes deux latéraux qui me semblent être tes deux latéraux titulaires, même si Diallo, je trouve qu'il est intéressant, notamment dans les gros matchs, qui ne sont pas là.
Ce que je veux dire, voilà. Jonathan, c'est que devant, t'as des cadors, t'as des mecs qui sont dans le top 5, top 10 des joueurs mondiaux. Quand on parle de Mbappé, de Neymar, de Di Maria, voire de Verratti au milieu de terrain, est-ce que dans la défense du Paris Saint-Germain, il y a un top 10? Est-ce qu'il y a un top 20?
Il y a Marquinhos.
Ok, et après, il y a un champion
de l'Europe. Alors moi, personnellement,
Kimpembe, alors attention, ça n'engage que moi et ma vision du foot. Pour moi, Kimpembe, il y en a 10 en Ligue 1. Il joue au Paris Saint-Germain, donc on le voit. Mais franchement, voilà, ça, c'est mon avis.
J'allais dire pareil. C'est-à-dire que Marquinhos, c'est un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il faut quand même pas avoir de la merde dans les yeux pour dire ça. Marquinhos, c'est quand même le top niveau. Kimpembe, moi, je suis un petit peu plus mitigé, mais je peux comprendre qu'il soit titulaire dans cette équipe parce que je pense que c'est un bon complément à Marquinhos, qu'il aime le club et qu'il a des qualités physiques qui, t'es obligé de les voir. Après, sur les latéraux, Florenzi et Bernat, c'est pas mal. Diallo, je trouve que c'est un joueur qui est en devenir, sur qui encore une fois beaucoup d'argent a été investi et qui est un bon investissement pour l'avenir du PSG. En plus, c'est un mec hyper intelligent. Après, là où je suis pas d'accord avec ton raisonnement, Tim, c'est que les investissements ont été consentis sur les défenseurs, sauf qu'ils se sont plantés. Les 47 millions sur Kerrer, c'est une somme qui est énorme quand même.
Ouais.
C'est-à-dire que l'argent a été allongé, mais qu'ils se sont plantés. Et à l'image de Manchester City, qui a mis des saisons à se stabiliser défensivement, cette saison s'est fermée à double tour, y a pas de problème. Ils ont enfin réussi à trouver leur défense type. Mais rappelons-nous que ça a été très compliqué pour eux et que ça leur a coûté beaucoup d'argent dépensé par les fenêtres pour trouver des bons défenseurs. Donc ça,
sur le PSG là-dessus. Les latéraux, ils ont dépensé sur Mendy, ils ont dépensé plus de 50.
Au moins 500 millions d'euros sur toute leur défense.
Au moins, Stones, il a coûté plus de 50. T'as Kyle Walker qui a coûté plus de 50. Chaque année, il mettait je vais acheter mon compte défenseur central. Et finalement, ça.
Et là, Paris a une charnière.
Elle est plus.
Tu vois faire la moutime.
Je comprends.
Ça tient plus que la route.
Alors, Marc, Kimpembe, ce que je lui reconnais, c'est que quand il y a des très gros matchs, il sait élever son niveau de jeu. Il sait être à
100%.
C'est très important. Surtout à Paris, où beaucoup, sur les gros matchs, descendent leur niveau à 80%. Mais ça reste pour moi un joueur relativement limité et très loin de ce que j'estime être le top 20, le top 30, peut-être le top 40 des défenseurs européens.
Ce qui manque au PSG.
Carrément. Je te le dis.
Je suis pas loin d'être d'accord avec Tim, tu vois.
40. Mais... Non, mais les gars, quand même, vous abusez.
Je trouve que c'est un défenseur qui est limité, Kimpembe, mais il a un impact.
Je dis pas qu'il est limité.
Top 30.
Il y a quand même des joueurs.
Top 30 pour jouer le top 8 européen, il y a un problème. Pour moi.
Mais je suis d'accord, Tim. Je suis d'accord. Après, encore une fois, je reviens sur ton raisonnement de base, c'était que quand même l'argent a été investi par le Paris Saint-Germain. Après, là où on peut peut-être se poser quelques questions, c'est sur les joueurs de complément, les défenseurs sur ton banc qui peuvent justement te sortir de la panade en Ligue 1. Un joueur comme Fonte, par exemple, qui est au LOS, qui est titulaire, qui est le taulier, etc. On va pas en reparler, on en a parlé déjà 1000 fois depuis le début de la saison. C'est un joueur qui, à mon sens, aurait toute sa place dans la rotation pour la Ligue 1 et pour les matchs de coupe du Paris Saint-Germain. Et ce joueur, tu ne l'as pas. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas clinquant, qui n'est pas bling bling, mais qui est un joueur qui a de l'expérience, qui connaît ce que le prophète, qui a un certain niveau de professionnalisme, qui connaît le haut niveau. Et ça, ça manque peut-être au PSG. Après, ouais, moi, très franchement, j'aimerais qu'on change de débat parce que je vais te répondre clairement, Tim. Je pense que c'est pas la question. L'effectif du PSG est très bien construit et largement suffisant pour gagner le championnat de Ligue 1.
Ah, ça,
si
pas
tu
de
me
problème.
Dis,
ça,
Tim, Tim, après Tim, attends, le bémol que je mets, c'est que ce PSG-là, et je sais que ça fait, ça déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça a fait réagir beaucoup et très fort les supporters du PSG. Je pense que c'est un des PSG le plus faible de l'ère QSI. Parce que
moi, je l'ai dit la dernière fois, mais pardon, on va parler d'effectif. Je l'ai dit, l'effectif, il est moins fort. En général, hein, je parle pas le 11 type. Ah ouais, je parle des mecs, le groupe. Les mecs qui rentrent, il est beaucoup moins fort que certaines années.
Et tu sais quelle est la conséquence,
c'est
Frédéric?
Clair.
Fred, la conséquence, c'est que quand tu as un match, Fred, quand tu as un match aussi important qui arrive cette semaine, une échéance contre le Bayern Munich, et ben ça donne quoi? Ça donne que ton groupe qui est un peu moins bon que les années précédentes, et ben peut-être qu'il est moins concentré. Et que du coup,
ça gagne
les matchs contre Lille,
ça gagne pas contre Lyon, ça gagne pas contre Monaco.
Exactement.
Ça gagne pas contre Nantes, les matchs à domicile. Les gros matchs, ils ont pris 4 points sur les
c'est terrible.
Tu comptes les 4 premiers,
c'est terrible.
C'est extraordinaire.
Après, pour finir sur le PSG, pour moi, parce qu'après j'aimerais vraiment parler du LOSC, parce que le LOSC, pour moi, c'est vraiment, tu vois, le sujet principal de la soirée, ça doit être le LOSC.
Ouais.
Sur le PSG, il y a quand même 2-3 choses qui m'ont inquiété pour le match contre le Bayern, et je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. C'est Kylian Mbappé. Alors moi, j'ai pas envie de taper dessus.
Ouais,
j'ai
pas envie. Non, il va augmenter son niveau.
J'ai pas envie de taper dessus parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé de son attitude, etc. Je l'ai dit hier. Moi, si à 20 ans on m'avait donné autant de pognon, je serais devenu le roi des cons. Et je trouve que Mbappé gère la chose d'une manière assez extraordinaire pour un joueur de son âge. Alors il a le droit de faire des sorties d'août comme ça. Il est en pleine évolution, en pleine croissance en tant qu'homme. Ça, c'est une autre question. Mais je trouve que physiquement, il est un peu dans le dur. C'est peut-être pour ça qu'il est moins bien dans la tête.
Il a joué en Bosnie, non, mercredi.
Oui, bah bien sûr.
Ouais.
Neymar. Mais même depuis le début de la saison, on sait qu'il a eu des pépins. Je trouve que Mbappé n'est pas au top physiquement depuis le début de la saison.
Il a le Covid aussi, non ?
Comment ?
Il a le Covid aussi.
Oui, mais bien sûr. Neymar, c'est quand même inquiétant parce que de là à se dire qu'il va retrouver le rythme, sa vista, son savoir-faire d'ici le match contre le Bayern, j'ai du mal à y croire. Et je suis très déçu par un joueur comme André Di Maria, qui fait pas un mauvais match, mais on attend quand même beaucoup plus de lui. Et quand t'as Mbappé et Neymar qui sont un petit peu dans le dur, tu t'attends à ce que le troisième larron prenne le flambeau.
On leur dit jamais rien. Et Mbappé et Neymar, Di Maria, il va pas faire l'effort non plus. Hein, de toute façon, il se range dans le collectif aussi, même s'il est insuffisant du Paris Saint-Germain.
Nadim nous a appelé au 32-16. Salut Nadim, comment ça va?
Bonsoir messieurs.
Bon, Nadim, salut. Nadim. Je prononce ton prénom correctement?
Oui, c'est Nadim ou Nadim, comme vous voulez.
Ah, tu préfères quoi, toi?
Nadim.
Nadim.
Allez, Nadim, ça va. Nadim, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre de cet après-midi? Et puis, deuxième question que je te poserai, c'est est-ce que, pour toi, la course au titre est compromise après cette défaite?
Bah, tout d'abord, je voulais vous remercier de me recevoir à l'antenne.
C'est un plaisir.
Et pour revenir, entre guillemets, sur le match, j'aimerais d'abord parler de Pochettino depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Car je pense qu'il y a une erreur de casting. Carrément, parce que je trouve qu'il n'a pas apporté un fond de jeu. On ne sait pas quel est le style de jeu qu'il veut imposer. Il a dû faire 15 km en faisant des va-et-vient sur la ligne de touche. Et il n'a pas donné de consignes spécifiques. On n'a pas vu de choix tactique fort. On a tous vu, on n'est pas coach, mais on a tous vu que Kerrer était vraiment pas bon.
C'est une catastrophe.
Honnêtement, depuis le début, il me faisait de la peine, mais là, ce serait bien pour lui qu'il change de club pour sa carrière et pour le Paris Saint-Germain. Et je trouve que Pochettino, il a été un petit peu présomptueux en alignant 4 offensifs, parce que Lille quand même joue le titre. Et j'aurais préféré voir Mbappé, Neymar et Di Maria en attaque, Mbappé dans l'axe, et prendre un gars comme Herrera qui aurait fait le boulot dans le milieu de terrain, ou voir comment il s'appelle.
Nadji, je ne peux pas te laisser dire ça.
Vas-y, Fred.
On est quand même, Paris est quand même à domicile. Et tu peux pas mettre un défensif de plus dans le milieu de terrain. Là, il faut que t'attaques, il faut que t'aies deux occasions, il faut que t'aies un Neymar qui, normalement, un contre un, Neymar, il doit être un mec qui doit. Pardon?
Neymar, je pense qu'il avait pas les cannes. il est trop nerveux.
Ah oui, là, d'accord.
Il avait vraiment pas les cannes, ils sont vraiment fatigués, j'ai l'impression. Bon, c'est pas une excuse, mais que le Paris Saint-Germain, quand même, on oublie qu'ils ont pas, ils ont pas eu le temps de repos comme les autres équipes, en Europe. Et je pense que ça va leur jouer des défauts, je pense, contre le Bayern de Munich, qui, malgré qu'il n'y avait pas Lewandowski, on a vu que c'était une équipe qu'on va dire qui était complète.
C'est une machine.
C'est une véritable machine. Et là où on peut reprocher, on va dire, aux investissements qu'on fait QSI, notamment ces dernières années et cette année-là, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas le banc qu'a, par exemple, Manchester City, le Bayern de Munich. Ils n'ont pas forcément
ça,
les moyens.
On est d'accord, ouais. Mais, par contre, Nadim, je ne peux pas te laisser dire ça sur Mauricio Pochettino, parce que je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, on a un peu du mal à voir la patte Pochettino, mais de là à le juger et de là à le déclarer coupable alors qu'il est arrivé à l'intersaison, que c'est toujours compliqué, surtout quand tu as un plan de jeu ambitieux, je trouve que c'était un peu dur. Et moi, j'attendrai la saison prochaine, une fois que le mercato sera passé avec les recrues de son choix, pour le juger. Ceci étant dit, sur les choix de ce soir, je te rejoins. Il y a deux, trois choses que je ne comprends pas. La première, c'est que pourquoi s'entêter avec Thilo Kehrer? On voit que Thilo Kehrer est à la rue. Je trouve même que Dagba est meilleur. Je n'ai jamais pensé que Dagba était un joueur de haut niveau. Mais je pense que Dagba n'a rien à envier à Thilo Kehrer à ce poste-là.
Il
a joué avec les Bleus.
Il a joué avec les Bleus. Mais
à son âge, il peut quand même enchaîner les matchs.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Kehrer, il est parti en sélection ou pas?
Je crois bien, oui, en plus. Je sais pas.
Je suis pas sûr.
Je serais surpris. Mais ce que je veux dire, c'est que même si Dagba, c'est quand même un jeune joueur, il est capable d'enchaîner un petit peu les matchs. Et surtout, le point qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a vu très clairement que le PSG avait du mal à, dans les transmissions, et notamment entre la ligne avec Paredes Gueye et la ligne de trois devant avec Di Maria, Neymar et Mbappé. Je te dis pas que c'est un joueur qui va changer tout, mais je comprends pas pourquoi un joueur comme Rafinha, surtout si Verratti est blessé, n'a pas plus sa place. C'est le joueur qui peut assurer un peu plus de liant dans le jeu. Et là, quand je vois que ça persiste à voir, c'est une équipe qui est souvent coupée en deux, à savoir avec les quatre devant, enfin, les trois plus Kim de devant, et les trois qui essayent un peu de faire d'amuser la galerie tout seul, et qui font pas vraiment d'efforts collectifs pour revenir dans le milieu de terrain, donner un petit peu de liant, venir chercher les ballons, et les deux, Paredes et Gueye, qui doivent être deux à la récupération, pas aidés par leur ligne de trois devant, et qui en plus doivent faire les efforts pour faire les transmissions, et ben, je trouve qu'un joueur comme Rafinha, je comprends pas pourquoi Pochettino ne l'aime pas plus souvent.
Merci beaucoup Nadim d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton avis. On accueille Pape pour conclure sur le Paris Saint-Germain. Salut Pape, comment ça va?
Ça va, merci. Bonsoir à tous.
Quel beau prénom.
T'auras le mot de la fin sur le Paris Saint-Germain, Pape.
Moi, en fait, je voulais dire que l'équipe de Paris, elle a pas le niveau qu'elle devrait avoir. Là, j'ai entendu Nadim dire Paris a pas le banc de Manchester City, etc. Paris, ils avaient pas le niveau de Lille aujourd'hui. Il y a un moment, on regardait le match. Paris,
dans l'état d'esprit, c'est clair.
Même sur le terrain, quand sur le terrain, t'as Kehrer en face de Bamba. Je suis désolé, aujourd'hui, je préfère avoir Bamba qu'avoir Mbappé. Il fait deux sprints dans le match. Je préfère avoir Ikoné qu'avoir Neymar. Je préfère avoir Soumaré et André que nos deux milieux. Paredes, il a joué en marchant, Gueye. On a vu l'accélération qu'Ikoné lui met sur le but. C'est un scandale. Je suis désolé, après les deux latéraux à gauche, bon Diallo je l'aime bien, mais c'est un central, il fait pas toujours des bons matchs à gauche. Derrière c'est Bakker qui rentre, je vais pas critiquer encore Bakker, mais je parle du niveau des joueurs de Paris cette année. Je crois que c'est le plus faible Paris qu'on a depuis les Qataris.
Oui, mais ça on l'a dit plusieurs fois.
Après on peut parler d'état d'esprit, on peut parler de ce qu'on veut. Quand Pochettino il fait les bonnes choses, il fait les changements à la 60e, ça marche pas, il change les latéraux, mais regardez qui est là, regardez qui rentre. Ça, c'est les 3-4 dernières années, le recrutement.
Voilà,
c'est les 3-4 dernières années, le recrutement, le recrutement. Excusez-moi, je vais rester poli. Voilà, le recrutement des dernières années.
Il est loupé.
Je suis désolé, on achète des mecs qui jouent pas. Ils sont même pas tous titulaires en Ligue 1, dans les autres clubs de Ligue 1.
Il y a quand même eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour pas grand-chose, notamment sur les lignes arrière.
Kehrer, je sais pas combien de millions, Bakker, je sais même pas c'est qui a sorti Bakker.
Il t'a pas coûté grand chose, mais par exemple un joueur comme Diallo, même si on a dit du bien de lui,
il t'a coûté cher aussi.
C'est-à-dire que l'argent a été investi.
Cher, mais Diallo, ça se voit, il va être bon, c'est pas un arrière gauche. Bon. On est là et on le
met. Mais moi je l'aime bien arrière gauche, notamment pour les matchs de champions, Diallo.
Des mecs comme Paredes, bon, t'as eu toi, Jonathan, je te le dis franchement, Nous, on est des supporters de Paris. Quand on t'entend, tu jubiles, tu parles de notre équipe, ça fait mal. Parce qu'on le sent que tu t'éclates.
Non, c'est pas vrai,
tu
en plus.
Non, on le sent. Dans pape, ta voix, pape, tu peux pas nous le cacher.
Pape, écoute-moi. Je te donne ma parole. Pape, écoute-moi. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole, Pape. C'est que quand on parle du PSG, je suis totalement objectif et j'arrive. Alors, je sais même pas comment je fais, mais j'arrive totalement à déconnecter
mon côté de supporter avec le PSG. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il y a la 20 minutes. Ils ont tous 20 bonnes minutes. Après 20 minutes, tu peux le jeter, Paredes. Après, il reste Marquis, Kipembe et Navas.
Tu sais ce que Paredes t'apporte, Pape ?
Voilà.
C'est qu'il Paredes t'apporte quand même quelque chose. Et c'est pour ça que c'est grave, en fait. Et je te rejoins à 10%. C'est qu'en fait, Paredes met de l'engagement et met un peu de méchanceté. Et du coup, quand les autres n'en mettent pas, il ressort.
Merci, Pape. Ouais. Merci Pape, merci d'être venu échanger sur le Paris Saint-Germain. On voulait aussi évidemment parler un petit peu de Lille, du LOSC, même beaucoup, parce que ce LOSC là a réussi son coup. Christophe Galtier a produit une bonne première période. Certes, il y a eu 20 bonnes premières minutes du Paris Saint-Germain, mais il y a eu 25 excellentes minutes de Lille. Et puis après, ils ont fait ce qu'il fallait en deuxième période.
Juste pour commencer, Tim.
Vas-y.
Moi, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, que Christophe Galtier, je le maintiens, est le meilleur entraîneur français en activité. Premièrement, il a peut-être pas le même matériel que Zinedine Zidane au Real Madrid, il a peut-être pas l'aura de Didier Deschamps, mais je trouve que dans ce qu'il fait actuellement, avec le matériel qu'il a à sa disposition, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, j'aimerais rappeler juste une chose pour étayer mes propos, c'est que rappelons-nous comment il prend Lille. C'est-à-dire qu'il prend Lille, malheureusement, après l'épisode malheureux de Marcelo Bielsa, Lille au bord de la relégation, et 3 ans plus tard, il en est là. Donc j'ai juste envie de lui tirer mon chapeau, quoi qu'il arrive.
Fred, sur le LOSC.
Ah, sur le LOSC. Mais non, mais le LOSC, je l'ai dit dans mon premier point, c'est une grosse force collective, une performance aboutie. Il l'a dit, hein, Christophe Galtier, même après, il a travaillé énormément sur les points forts et les points faibles de ce Paris Saint-Germain, et les points faibles, il les a super bien identifiés. Et ses joueurs aussi. Quand on voit les courses à haute intensité de replacement des joueurs du LOSC, mais c'est à montrer dans les écoles de foot. Alors oui, sur certaines actions, ils ont manqué de justesse technique, sur les ressorties de balles à certains endroits du terrain, ils ont manqué de technique aussi, parce qu'il y a eu des pertes de balles assez faciles. Peut-être qu'on n'a pas assez levé la tête aussi sur des changements d'aile. Mais sinon, ça a été un match abouti, un match parfait, un match où les joueurs ont respecté à la lettre ce qu'a demandé le coach. Quand on voit l'état d'esprit de Timothée Weah qui est rentré à la 20e, je crois, à peu près, 23e minute,
un peu plus tard.
Qui est rentré, lui il était remplaçant, il rentre devant, et ensuite on lui dit non, bah écoute, Bourak qui rentre, il faut que tu ailles défendre sur le côté. Il avait déjà joué plus de 60 minutes.
35e.
Donc l'état d'esprit en tout cas affiché par les Lillois ce soir a été exceptionnel, et la victoire a été méritée, oui. Elle est méritée, cette victoire.
Et la force de Christophe Galtier, c'est aussi deux semaines et demie après un match complètement raté face à Nîmes, d'avoir su remettre tout le monde à l'endroit. Alors certes, sans un match contre le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu plus facile de se motiver, mais tout de même, il fallait remettre les joueurs.
C'est une belle revanche par rapport à la Coupe de France aussi.
Bien sûr.
En fait, Galtier maîtrise tout dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'il maîtrise le point de vue tactique, mais surtout il maîtrise, tu parlais des courses à haute intensité, de l'état d'esprit. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'après le match, quand il parle du cas de Sheka, qui a été sanctionné pour des comportements qui apparemment auraient été inappropriés à l'entraînement, tu sens que le mec, il laisse rien passer à ses joueurs. Et qu'il maîtrise son groupe, c'est une main de fer dans un gant de velours.
Ouais,
et c'est ça qu'on attend dans l'entraîneur.
Parce que c'est un entraîneur.
Ah ouais, parce que c'est un super mec en plus.
Ouais. Paul nous appelle au 32-16. Salut Paul, supporter du LOSC. Comment ça va, Paul?
Salut Tim, salut Fred, salut John.
Salut Paul.
Comment tu vas? Forcément bien, j'imagine.
Bien, Paul, ça va?
Très très bien. Écoutez, avant juste de commencer le débrief du match, j'aimerais juste vous dire que on nous avons enterré très très vite après la contre-performance contre Nîmes et le niveau de jeu à ses limites. Il faut bien dire.
Pas tout le monde. Paul, pas tout le monde.
Un peu quand même.
Moi,
un
j'ai
peu quand même.
En
vous. Non mais John, bien sûr, mais on entendait, il suffisait juste que le PSG accélère sur le champignon pour dépasser tout le monde, que Lille voulait pas être champion. que Lille ne pouvait pas être champion.
Parce que tu fais l'erreur d'écouter d'autres émissions que l'After.
Non, il y a aussi Top of the Foot, l'After. Je suis un grand fan de l'After. J'interviens assez souvent. Je pense que vous m'entendez suffisamment sur votre antenne. Je pense que beaucoup ont fait l'erreur de penser que Lille ne voulait pas être champion. Lille ne pouvait pas être en champion. Et bien évidemment, Lille a fait des erreurs. Lille a pas joué son jeu ces derniers matchs, notamment contre Nîmes. On a laissé passer des points, on a laissé passer des occasions. Mais ce soir, on a montré ce que le club savait faire. Et ce soir contre le PSG, un match qu'on ne devait pas perdre. Je vous écoute assez souvent. D'ailleurs, je vous écoute tous les soirs. C'était le match charnière. C'était la journée charnière d'ailleurs. Monaco avait gagné, etc. Il fallait qu'on gagne. Il fallait pas qu'on perde.
Et ouais.
Et voilà, on a montré que Lille savait faire, sait encore faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire une sorte de privation de balle intelligente. En tout cas, c'est ce que j'appelle, j'appelle ça comme ça. C'est,
ouais, c'est ça.
En fait, on remarque que quand on a le ballon, quand on domine, on ne sait pas trop quoi en faire. Quand on joue contre des blocs bas, on ne sait pas trop réellement bien jouer. Et donc, en fait, on a laissé le ballon au PSG et on a réussi des transitions offensives ultra rapides. Et honnêtement, sans un grand Navas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans un grand Navas, on peut mettre à Paris.
Tu peux gagner 2-0. Tu peux gagner 2-0 parce qu'il y a des occasions dans la seconde partie du match.
Il y a la grosse occasion de Yilmaz là, notamment.
Mais il faut aussi noter une chose parce que je voulais qu'on en parle aussi.
Il y a un grand Maignan aussi.
Maignan fait un très grand match et s'impose vraiment comme probablement il y a débat pour savoir qui de lui et Loris est le meilleur gardien français actuellement.
Justement, alors cette colonne vertébrale, et je partirais même hors du terrain, Christophe Galtier, Maignan. La doublette Fonté-Botman, incroyable. André,
tu peux mettre André Soumaré.
André a fait un match qui est exceptionnel.
Il est énorme. Il est énorme.
Il a fait un match exceptionnel.
Paul, si on a le droit de prendre 26 joueurs pour l'Euro, on le met. Pas au même poste, mais franchement, joueur d'équipe.
En tant que milieu, je prends TJ, moi.
Ouais, joueur d'équipe, on sait que tu prends TJ Savanier. Et puis devant, le choix, l'embarras du choix, parce que Yilmaz, c'est quand même un sacré joueur. Jonathan David, il a mis le temps cette saison, mais finalement, il est diablement efficace encore aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette équipe lilloise qui lui donne une bonne tête de champion.
Encore une fois, c'est une équipe qui a des joueurs de talent. Mais la mayonnaise prend parce que Christophe Galtier est là et parce que Christophe Galtier sait faire les choix. Christophe Galtier sait choisir les bons joueurs et c'est surtout concerner ses joueurs.
Et je vais aller dans ton sens, c'est qu'à un moment donné aussi, il arrive à dégonfler les têtes. Et tu sais très bien que quand on est un peu en haut comme ça, quand on commence à jouer, quand on commence à parler de nous, je le dis parce qu'on est comme on a été joueur et c'était. C'était quand même, c'est compliqué hein, quand tu viens un petit peu je vais pas dire du bas, mais quand on commence à parler de soi, l'équipe de France et les Bleus et on va être champion de France, etc. Des fois, il y a des têtes qui peuvent gonfler. Et quand on est titulaire, surtout aussi de match en match, il y a des têtes qui peuvent gonfler. Et Christophe Galtier, t'es pas bon, t'es un autre. Regarde à côté de toi, l'autre mec qui va rentrer, il est aussi bon que toi, donc fais gaffe.
Après, les gars, juste. Tout n'est pas gagné pour le LOSC. Hein. Il y a juste 3 points d'avance. Il faut quand même bien le prendre en compte aussi. Il y a juste 3 points d'avance sur le PSG et la fin de saison, ça va être au plus tôt. Là, ce que le LOSC s'est offert ce soir, c'est pas un avantage décisif, définitif pour le titre, mais c'est un petit avantage.
Oui, c'est un petit avantage et moi, je continue de penser que la saison se jouera en fonction de ce que fait le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Merci beaucoup, Paul, et un très joyeux anniversaire.
Eh bah oui.
Merci beaucoup et j'aimerais juste... Si vous permettez, je passe une juste petite dédicace à mes potes qui sont dans la salle juste à côté de la mienne, dans le salon, alors que moi je suis dans la chambre et qui m'écoutent.
Allez, va fêter ton anniversaire. Amusez-vous bien et geste barrière, les gars, faites gaffe.
Merci, bien sûr, bien évidemment. Bien.
Tu bois un coup à notre santé, j'espère.
On le sait.
J'en ai déjà bu 3 pour vous. Passez une bonne soirée, les mecs.
Ciao, bonne soirée. J'aimerais juste terminer sur ce son de Christophe Galtier qui a soulevé quand même un problème au niveau Covid. On parlait de geste barrière. Écoutez son explication en conférence de presse de quelque chose que le grand public ne savait pas forcément.
On fait quoi des joueurs qui ont déjà contracté la Covid? Au niveau de la Ligue, on n'est pas obligé de les tester. Là, ils ont été testés parce que la rentrée de sélection. Alors que ces joueurs-là, normalement, pour la LFP, on n'est pas obligé de les tester. Il va se passer quoi dans les semaines qui arrivent?
Voilà, un sujet que la LFP va devoir étudier de près puisqu'il est acté qu'on peut attraper la Covid plusieurs fois. C'est quand même un petit peu surprenant cet état de fait. Oui, Marco Verratti en est la preuve, mais enfin, il est pas le seul à l'avoir attrapé deux fois. On va clôturer donc sur ce Paris Saint-Germain-Lille. On revient dans un tout petit instant. On vous parle des autres matchs de la journée et notamment des autres concurrents au titre, Lyon et Monaco.